Au début du chapitre 41, on a expliqué que même si l'amour est une notion très importante dans le judaïsme, dans le service de Dieu, on a expliqué que néanmoins, on doit avoir au minimum une crainte primaire, une crainte de Dieu primaire. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait expliqué comment, on avait donné une technique, comment chacun de nous peut arriver à la crainte de Dieu. On avait expliqué qu'il suffit simplement de s'imaginer à quel point Dieu est très très grand et à quel point nous nous sommes très petits. Et ce Dieu qui est très très grand, il laisse tout de côté pour qui ? Pour nous. Et ce Dieu qui est très très important, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, j'ai besoin de ta tefila, j'ai besoin de ton mincha, j'ai besoin de ta mitzvah, j'ai besoin de ta petite mitzvah. Alors là, quand on réfléchit à ça, dit l'Admor HaZaken, automatiquement, ça nous amène deux choses dans notre tête. Quand tu t'imagines que Dieu, il est tellement grand, que ce Dieu qui est tellement grand, il met tout de côté pour venir te voir à toi et pour te demander des choses à toi, donc automatiquement, ça génère deux sentiments. D'abord, ça me donne un sentiment d'importance. Je me dis, tu t'imagines, le grand Dieu, le bon Dieu, il me dit, j'ai besoin que toi tu fasses une mitzvah. Qui suis-je ? Mais deuxièmement, ça me donne un sentiment, c'est vrai que ça me donne un sentiment d'importance, mais ça me donne un sentiment de crainte. Parce que je sens que je suis quelqu'un d'important, je sens que chaque geste que je fais est très important. Et donc automatiquement, je me dis, j'ai intérêt à assurer parce que si je n'assure pas dans la mitzvah que je fais, je risque de bouleverser le monde. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on a expliqué, l'Admor HaZaken, il a expliqué comment chaque juif peut arriver à ce sentiment. Il a expliqué à l'Admor HaZaken qu'il y a des moments clés dans la journée où il est important de penser à ça. Normalement, on devrait penser à ça toute la journée. Comment Dieu, il est grand, et nous sommes petits, et qu'avec tout ça, Kadosh Baruch Hu, il donne de l'importance à chacun, et il nous demande, il a besoin de nous. Mais il y a des moments clés dans lesquels on doit penser à ça. Notamment, un des moments clés, c'est avant de commencer la tefila. Vous vous rappelez ce qu'on a expliqué la semaine dernière? Ça, on s'arrêtait dessus la semaine dernière. On a dit qu'avant de commencer la tefila, on commence jamais la tefila à sec. Normalement, aucune tefila, on devrait la commencer à sec. Non. On peut pas commencer directement une tefila, directement à parler avec Hachem. T'es pas en état. Il faut d'abord te préparer. Comment on se prépare à une tefila? On se prépare à une tefila en pensant, bonsoir, en pensant à ce qu'on a dit, à quel point Dieu il est grand, à quel point moi je suis petit, et à quel point ce Dieu qui est grand, il me dit j'ai besoin de ta mitzvah. Il faut qu'on analyse encore ça plus profondément. Et on a expliqué qu'une des méthodes pour intégrer ça dans notre cœur, c'est quoi? C'est le talit et les tefilin. Comme on a expliqué la semaine dernière. C'est quoi la mitzvah des tefilin? Je vais commencer par le deuxième. C'est quoi la mitzvah des tefilin? Le but, tiens, il y a des livres encore là-bas, c'est le tome 2. Le but de la mitzvah des tefilin, c'est quoi? C'est de soumettre son cœur et son esprit à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est le message des tefilin. Soumettre son cœur et son esprit à Kadosh Baruch Hu. On a expliqué que c'est une halakha dans Shulchan Aruch. Maintenant, c'est quoi le rôle du talit? Qui se rappelle du rôle du talit? À quoi ça sert le talit? Pourquoi on met un talit? Pour s'envelopper. Et quelle mitzvah ça nous rappelle le talit? La mitzvah de là, ça vous dit quelque chose? Ça nous rappelle une mitzvah. On s'enveloppe de quelque chose.
La royauté.
Là, exactement, Razak. La royauté. Qu'un roi... Alors, c'est intéressant, comme on a expliqué, que le roi... D'un côté, c'est moi qui nomme le roi, qui accepte le roi sur moi. Mais d'un autre côté, sur qui le roi va régner? Sur moi. Je ne sais pas si vous voyez le paradoxe. Ça veut dire, c'est moi qui va me nommer un roi sur moi. Et ce même roi, c'est lui qui va me régner, qui va régner sur moi. C'est exactement ça comme quand on met le talit. Quand je mets le talit, je m'enveloppe moi-même de quelque chose qui va m'envelopper. Qui est la présence, la shrina, la présence d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'était juste une introduction pour expliquer comment la Torah essaie de nous mettre en condition avec le talit, avec les tefilines, avec une introspection avant la tefila, etc. pour qu'on comprenne que notre tefila est très importante et qu'on ait la crainte d'Akadosh Baruch Hu dans la tefila. Ok. Maintenant, on s'est arrêté la semaine dernière à un point très important, mais j'ai juste touché à ça. Et là, ça va être le thème d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe si un juif, et ça peut nous arriver à chacun de nous, il a fait tout ce qu'on a dit. Il a mis son talit. Il a mis ses tefilines. Il a essayé de réfléchir à l'importance du talit, à l'importance des tefilines, à l'importance que le talit se représente, la shrina sur lui, et les tefilines se représentent la soumission du cœur, de l'esprit. Tout ce qu'on a dit la semaine dernière, la semaine d'avant, il a pensé à ça. Concrètement, il sent que son cœur n'a pas décollé. Ça veut dire qu'on peut arriver parfois à une situation dans la vie que notre esprit va décoller, mais pas notre cœur. L'esprit décolle. Je pense à l'esprit, tu l'expliques. Tu dis, ouais, tu sais, il y a un talit, il y a des filines, ta, 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 ta. Dieu, il a dit, t'es important, etc. Bon, l'esprit, il a décollé. L'esprit, il a compris que c'est important. Mais le cœur n'a pas suivi. Alors, est-ce que ça veut dire que j'ai raté ma mission? Vous comprenez ma question?
Ça veut dire que,
vous savez, quand on est emballé par quelque chose, on sent. Maintenant, des fois, on n'est pas emballé, mais on comprend qu'on devrait être emballé. Et il manque quelque chose. Et je vous donne un exemple. Allez, je vais aller un peu plus cru. Imaginez par exemple que vous êtes Yom Kippour, à la Neila. Bon, c'est un moment dans lequel on doit être emballé normalement. Vous voyez tout le monde autour de vous, bah, sans emballer. Et vous, vous comprenez que vous devez être emballé, mais vous n'êtes pas emballé. Est-ce qu'il y a un raté quelque part? Hein? Pas forcément. Ah, attends.
Il manque quelque chose.
Ben, ça nous arrive plein de fois dans la vie. Des choses comme ça, que moi j'ai fait tous les préliminaires qu'il faut pour être emballé. Et Bémet, dans mon cerveau, je suis emballé. Je comprends que c'est un élément important. Mais mon cœur n'est pas intéressé comme quelque chose de matériel qui m'aurait intéressé.
Pas la même chose que si on se sentait étranger à cette histoire?
Non, je suis pas étranger. Je suis pas étranger. Je mets ma tête dedans, j'essaie de comprendre et je comprends que je devrais être emballé. C'est-à-dire qu'il met sa tête dedans. C'est pas Stam qui est là et qui dit, bon, je suis là, j'attends que ça part et j'attends le boulot. Et il est là, non, il est là, il essaie d'être dedans. Mais à un moment, il a un clic dans sa tête, il est en pleine Neila, il est à une demi-heure avant la fin, il voit tout le monde comme ça en transe, et lui, il est là, il dit, mais, je suis pas dedans, là. Je suis pas dedans, ça vous est déjà arrivé?
Oui,
il est arrivé
tous les ans.
Hein?
Ça
arrive tous les ans?
On attend le boulot.
Bon, je sais pas dit qu'on attend le boulot, mais, à un moment, c'est-à-dire, tu sens que c'est, normalement, c'est, ça fait 40 jours qu'on bosse, tu vois, depuis le début du mois d'Eloul, et tu sens que tu dois arriver au moment le plus fort. Et des fois, tu sens que c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas pour ça que j'ai bossé 40 jours. Alors, on va chanter, on va penser, etc. Mais tu sens que le cœur, il est pas emballé comme t'aurais voulu qu'il soit emballé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dis l'admorazaken. On va reprendre à page 233. Au milieu. Enfin, un peu après le milieu. Ve'azai, à ce moment-là. Une fois qu'une personne a fait tous les préliminaires pour amener sur soi la crainte de Dieu, comme on a expliqué les cours précédents. Et que Bémet, il a fait tout ce qu'il faut. Il a fait les mitzvot qu'il faut, il a fait les réflexions qu'il faut. Bon. Faza, à ce moment-là, fim bechol zot lo tipol alav, ema vafacha, abdigalot libo. Même si, ce juif, avec toutes les préparations qu'il a fait, il n'a pas la crainte de Dieu qui va être dévoilée dans son cœur. C'est quoi la crainte dévoilée dans son cœur? C'est expliqué, dans le commentaire, quelle est la différence entre ce qu'on appelle yira et pachad. En français, ça donnerait quelque chose comme la différence entre la crainte et la peur. En français, il y a deux mots. C'est pas une traduction exacte, mais c'est presque ça. Je vais vous expliquer ce que c'est. L'Admor HaZaken, dans un autre chapitre de Tanya, il explique que Yir'a, la crainte, c'est dans le cerveau. Pachad, la peur, c'est dans le cœur. Je vais vous donner deux exemples très simples. Imaginez par exemple que je vous pose la question, est-ce que vous avez peur de la bombe nucléaire d'Ahmadinejad, il marche moi. Est-ce qu'un juif, surtout quelqu'un qui sait, on te dit voilà, d'après les analyses, etc., dans un an il va l'avoir.
On craint, mais on a...
Ah, donc ça veut dire quoi? Est-ce que mon cœur tremble maintenant? Non, mon cœur il tremble pas. Pourquoi il tremble pas? Parce que c'est quelque chose qui est dans ma tête. Dans ma tête, je m'imagine que je sais ce que peut faire une bombe nucléaire. Il l'a pas fait encore, mais je sais ce que peut faire. Et je sais quelles sont ses intentions. Donc, mon cerveau analyse et il dit, il y a un problème. Mais ça reste une crainte intellectuelle. C'est pour ça que je dors tranquillement. Enfin, tranquillement, certainement. Mais en tout cas, je tremble pas. Maintenant, imaginez, vous êtes là en train de marcher tranquillement dans la rue. Et tout d'un coup, vous avez un loup qui débarque. Pac! Il arrive à un mètre de vous. Là, qu'est-ce qui se passe? Là, votre cœur, il va commencer à battre. Pourquoi? Quelle différence entre le loup et Ahmadinejad?
Le danger imminent.
Parce que là, dans le loup, c'est pas juste une histoire que mon cerveau me dit que quelqu'un qui se trouve à 3500 km d'ici, il risque de faire quelque chose. Là, c'est du concret, il est devant moi le bonhomme. Le loup, il est devant moi. Et il a faim. Et je suis une bonne viande. Et il a très très faim. Donc, là, je tremble. Ça veut dire qu'il y a une différence entre ce qu'on appelle Yir'a et Pachad. Yir'a, il y a aussi ça. Yir'a, c'est Bamoar. La crainte, c'est dans la tête. Pachad, la peur, c'est dans le cœur. Maintenant, la question qu'on doit avoir, c'est nos sentiments qu'on a envers Hachem. Est-ce que c'est un sentiment de crainte ou de peur? Est-ce que, par rapport à Dieu, est-ce que j'ai la crainte de Dieu? Ça veut dire que mon cœur, il trempe pas, mais je sais que si je fais le malin, il y a après 120 ans, et même avant 120 ans, Dieu, il peut... Et on voit des fois, tac, ça peut tomber.
Si on était dans la peur, on ne ferait pas d'Aveyron.
Ah, tu as raison. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que...
Si... La crainte, pas avoir un certain niveau, plus la crainte de Dieu.
La peur de Dieu.
Ah, mais même la crainte, c'est un niveau.
Non, mais la peur, c'est encore un plus grand niveau. Parce que ça veut dire que tu sens qu'il n'y a plus le filtre de la Kadosh Baruch Hu, donc tu sais que il est là, et donc tu peux pas. C'est comme si tu avais un gendarme.
Donc c'est réel. C'est-à-dire, c'est, pour toi, c'est réel. C'est un grand niveau, ça. C'est de ça que parle Admor HaZaken.
C'est le niveau d'Abraham.
Très bien. Il n'y a pas qu'Abraham qui est comme ça.
Bon, c'est un niveau d'achat.
Normalement, on doit craindre Dieu dans son cœur. Alors voilà, ça c'est la question de Admor HaZaken. La question de Admor HaZaken, il dit qu'est-ce qui se passe si un juif, avec toutes les préparations qu'il a fait, tous les textes qu'il a étudiés, tout le talit et les tefillin qu'il a mis, tout ce qu'il a pensé, avec ça, il arrive seulement à une crainte dans son esprit. C'est-à-dire que dans sa tête, il sait qu'il y a un Dieu et qu'il faut craindre ce Dieu. Mais dans son cœur, il n'a pas décollé. Est-ce que ça veut dire qu'il a raté sa mission? Réponse de l'Admor HaZaken, non. Réponse de l'Admor HaZaken, c'est pas un raté. Pourquoi? Parce qu'il dit, Mikol Makom, néanmoins. Mais Achar Shemekabel Alav Malchut Shamaim. Étant donné qu'il accepte sur soi la souveraineté divine. Et qu'il fait Behemet, c'est pas Stam qui dit je prends sur moi. Vraiment, il a accepté la souveraineté divine. Ou Mamshich Alav Irato Itbarer. Et qu'il arrive, au moins, à appeler sur lui la crainte de Dieu. Ve'it galut machashavto. Une crainte qui va être dévoilée dans sa pensée. Urtsono shememocho. Et que vraiment, dans son esprit, il veut cette crainte. Dit l'Admor HaZaken. Eh ben, c'est déjà suffisant. Ça veut dire que, est-ce qu'il y aura un déclic du cœur ou pas un déclic du cœur? Ça, c'est un élément qu'on maîtrise presque pas. Ça veut dire qu'un juif peut passer toute sa vie à avoir la crainte de Dieu que dans sa tête. Et pas dans son cœur. On espère ne pas arriver à ça. On espère un jour décoller dans le cœur. C'est comme, on va avoir un sentiment d'amour envers quelqu'un. On espère que cet amour, il reste pas intellectuel, qu'à un moment, il devienne quelque chose de constant dans son cœur. Mais c'est pas sûr. Ça, c'est une bracha. C'est pas sûr. Ça veut dire, ne crois pas que parce que tu n'as pas réussi à avoir la peur de Dieu dans ton cœur, que Rosh Hashanah, il arrive, tu sens que dans ton cœur, t'as pas peur. T'as pas peur. Dans la tête, t'as peur. Tu sais que c'est important, mais dans ton cœur, t'as pas peur. Tu trembles pas. Imaginez un bon juif, Rosh Hashanah, qui pour, il ne trempe pas. Il n'a pas peur. Dans son cœur, il n'a pas peur. Est-ce que c'est un problème? Dilad Admor HaZaken, il dit, non mais même plus que ça. Dilad Admor HaZaken, il dit, bien que normalement, tu devrais avoir la peur. Tu devrais avoir la peur. Mais il dit, si tu ne l'as pas, il ne faut pas t'en vouloir. Il faut faire ce que tu dois faire, laisse dans la tête, et ça finira par arriver dans le cœur. Dilad Admor HaZaken, maintenant, il y a un problème. C'est quoi? C'est que ce juif, on peut avoir un juif comme ça pendant des années, il n'arrête pas de se travailler. Il se travaille pour essayer de ressentir Dieu, pour ressentir l'amour de Dieu, pour ressentir la crainte de Dieu en ce qui nous concerne. Et avec toutes les années de travail qu'il fait, il ne sent pas de la crainte de son cœur. Alors bon, au début, on va le rassurer, on va lui dire, tu comprends, t'inquiète pas, ça prend du temps, même si tu ne sens pas dans ton cœur, dans ta tête, tu ressens, c'est déjà très bien. Alors, il va se poser une question, il va dire, mais attends, mais est-ce que je simule pas, là? Est-ce que je suis pas en train de me convaincre des choses qu'en vérité, que c'est faux? Je suis en train de dire, je crains Dieu, je crains Dieu, je crains Dieu. Est-ce que c'est vrai que je crains Dieu?
La méthode Coe,
c'est la question qu'on se pose là. Est-ce que quelque part, c'est pas ce qu'on appelle, comme on l'a dit la semaine dernière, de l'autosuggestion? Est-ce que c'est l'autosuggestion? Ça veut dire que si par exemple ce verre, quelle couleur est ce verre?
Blanc.
Ben, si je vous répète des millions de fois que ce verre est noir, et ben dans votre tête il deviendra noir. Comme ça. Et si je vous réveille à 4h du matin et que je vous répète des millions de fois ce verre est noir et que je vous dis quelle couleur est ce verre, vous allez regarder et vous dire, mais bien sûr, il est noir, je le vois, il est noir. C'est comme ça. Alors, est-ce que quelque part, si on poserait les questions un peu. Ah oui, non, mais c'est les Russes sont très très forts. Autosuggestion, c'est très très fort ça. La manipulation. Alors attendez. Maintenant, regarde. Et là, je reviens, Michael, par rapport à ce que tu disais. Un juif, il a été éduqué depuis qu'il est petit. On lui a dit, il y a un Dieu sur Terre. Bon. Maintenant, ce Dieu, on lui a indiqué, c'est bon, David. Il y a ses chips, alors. Donc, il y a un juif, il est éduqué depuis qu'il est petit. Depuis qu'il est petit, il est éduqué. On lui a dit, il y a un Dieu sur Terre. Très bien. On lui a dit. Après, depuis qu'il est petit, on lui a dit, ce Dieu, il gère tout. Bon. Très bien, il a compris. Après, un moment, il grandit, il grandit. À un moment, il arrive, ce juif, il a 25 ans, 30 ans. Et il voit que dans son cœur, il sent rien. Il dit, mais attends, mais est-ce que tout ce que je pense croire, est-ce que c'est pas du pipeau? C'est une question qui se pose. Il dit, mais finalement, si c'est tellement vrai, pourquoi je ne ressens pas dans mon cœur? Quand j'ai quelque chose de concret, de réel dans la vie de tous les jours, à un moment, je le sens. Tu comprends, le produit, tu le prends, au début, tu le regardes avec tes yeux, avec ton cerveau, après, tu le sens. Pourquoi tu ne le ressens pas? Comment ça se fait? Dis l'Admor HaZaken, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Le sentiment que tu as envers un Kadosh Baruch Hu, c'est jamais du mytho. Pourquoi? Parce qu'au fond de toi, tu aimes déjà Hachem. Et au fond de toi, tu as déjà la crainte d'Hachem. Si au fond de toi, tu ne l'avais pas, la crainte de Dieu et l'amour de Dieu, et que effectivement, tu te convaincs avec le temps que tu le crains et que tu l'aimes, là, je peux te dire, c'est du pipeau. Je vous donne un exemple. J'ai dans mon verre, j'ai du Haïti. D'accord? Est-ce que j'aime le Haïti? Oui, si j'en prends, c'est que je l'aime. Maintenant, imaginez quelqu'un qui n'aime pas l'Haïti. Il n'a jamais aimé l'Haïti. Mais depuis qu'il est petit, sa mère lui a servi du Haïti dans le biberon. Donc il s'est convaincu qu'il aime. Et il le prend comme ça, et à un moment, il s'est réveillé à 30 ans, il dit, mais attends, est-ce que j'aime cette boisson-là? C'est quoi cette boisson-là? Est-ce que je l'aime? Il dit, moi, je sens pas que j'en ai envie, mais je sens que mon cerveau me dit, c'est important pour toi. À un moment, il va se dire, mais attends, mais est-ce que vraiment c'est important pour moi? C'est possible que la réponse à laquelle il va arriver, c'est non. Et c'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce que est-ce que dans mon cœur, au fond de moi, j'aime le Haïti? Non, pas du tout. Donc, il peut arriver, et on en déchante parfois, qu'il y a des choses qu'on croit qu'on aime dans notre tête, et à un moment, quand tu réalises que dans ton cœur, tu n'aimes pas, tu dis, mais je n'aime pas ce truc-là. Qu'est-ce que je fais avec ça? Moi, je n'aime pas. Ça, c'est parce qu'au fond de moi, je ne l'aime pas. Mais si c'est quelque chose qu'au fond de moi, je l'aime, comme Hachem, qu'au fond de moi, de nature, je l'aime, on te dit dans ce cas-là, peu importe le sentiment que tu as, que ce soit un sentiment de peur dans ton cœur ou un sentiment de crainte dans ta tête, c'est pas grave. Puisque finalement, tu ne fais qu'exprimer un sentiment que tu as déjà dans ton cœur, qui est déjà là. Donc, c'est pas du mytho.
C'est plus compliqué pour celui qui n'a pas été éduqué.
Là. Oui, mais dans tous les cas, il craint Hachem.
Alors, pour que ça se révèle parfois...
Ah oui, mais voilà, ça c'est encore plus compliqué, ça.
Ah, oui.
Imagine-toi quelqu'un comme ça, tu vois, il fait teshuvah. Je connais des gens, des fois des gens qui te parlent, tu vois. Ben, elle fait teshuvah, bon, 20 ans, 30 ans, 40 ans.
Ils sont même parfois rebelles, dès que tu vois.
Et très souvent, c'était une teshuvah intellectuelle. Ça veut dire qu'il s'est recherché, il s'est recherché. Il y a plusieurs types de teshuvah, mais très souvent, une teshuvah intellectuelle. C'est-à-dire qu'il s'est recherché. À un moment, il arrive à la conclusion que c'est comme ça qu'il faut se comporter. Bon. Mais à un moment, il veut sentir. Et des fois, il sent, au bout de plusieurs années qui passent, il sent qu'il ne ressent pas encore. Il sent pas. Son cœur ne vibre pas. C'est très, très dérangeant, ça. Parce que tu dis, mais c'est pas possible. C'est des choses très profondes, ça. Dis l'Admor HaZaken, c'est pas grave. Faut pas forcer les choses. Et ne crois pas que parce que tu ne sens pas, ça veut dire que tu es en train de simuler et de te suggérer des choses. Non, c'est faux. Tu ne sens pas parce que t'es pas encore au niveau de sentir, comme tu as dit. C'est un niveau de sentir. Il faut être à un niveau que Dieu est quelque chose de tellement réel pour toi que c'est comme un verre que je touche avec ma main. Bon, c'est un niveau. Est-ce que tout le monde est à ce niveau-là? Je sais pas. Mais c'est pas parce que tu n'es pas arrivé à ce niveau-là que ça veut dire que tout le travail que tu as fait vaut zéro. Pas du tout. Le travail que tu as fait, il vaut ce qu'il vaut. Et il est très important. Et bien sûr, il faut, au contraire, il faut... Ouais.
Est-ce que l'homme, enfin le juif, ou l'homme en général, vous ne pensez pas qu'il a... Dieu, il n'a pas rien. Enfin, on l'intègre, on le comprend, c'est un concept. Enfin, on pense intellectuel, c'est un concept. Dieu, c'est un concept. Non, je ne suis pas exprimé, c'est pas un concept. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à définir. Voilà.
D'accord.
C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à définir. Moi, quand je pense à Dieu, j'arrive pas à me projeter. Je comprends pas l'immensité. Il n'y a pas de limite. C'est pas confiné. Est-ce que l'homme n'a pas besoin je pense aux Hébreux dans le désert. Ils avaient l'arche, ils avaient la nuit ardente, ils avaient du. Ils avaient du concret, enfin comment, pas du concret, ils avaient une présence, ils sentaient, ils tremblaient, enfin, j'imagine.
C'était réel.
Voilà. C'était réel, palpable.
Ah oui.
Quand vous voyez une nuée, quand vous avez...
À la limite, on se demande comment ils ont pu fauter avec tout ce qu'ils avaient.
C'est impossible de fauter.
Ah oui, avec ça, ils ont fauté. Et c'est nous, ça aurait pu être nous.
Mais nous, 3000 ans après, alors il y a des miracles, tous les jours il se passe des miracles. Mais ils sont tellement ancrés dans le quotidien.
Oui, que c'est pas aussi réel, c'est sûr ça.
C'est pas aussi palpable. C'est difficile, est-ce que... Vous comprenez un peu la...
Donc exactement, ça veut dire qu'on...
On a quand même du mérite quelque part.
Ah ben bien sûr qu'on a du mérite. Parce que la émouna que nous avons aujourd'hui, c'est une émouna justement qui très souvent va être seulement intellectuelle. Ça arrive très souvent. Quand je dis intellectuel, c'est pas intellectuel que je cherche pas à le sentir. je cherche à le sentir. Mais concrètement, est-ce que je peux dire que mon cœur vibre pour ça, comme je vibrerais pour quelque chose de matériel? Je suis pas sûr.
Dans le cas de
le talon du talon, Igveta, oui.
Dans le cas de la mère qui dit à son enfant, le AST c'est bon, faut que tu en prennes.
Oui.
Dans le cas de ça, si l'enfant n'aime pas le AST, lui il va se convaincre. Parce que s'il se convainc pas, il y aura un manque d'amour par rapport à sa mère, donc il va falloir que pour aimer sa mère, il aime quelque chose qu'il n'aime pas. Il y a quelque chose de ce genre-là.
Je suis d'accord.
C'est-à-dire que quand toi tu veux inculquer à tes garçons, à tes enfants, le judaïsme, quand ils comprennent pas, ils ont envie de te prendre au callback en disant que tu me fais chier parce que ce que tu es en train de m'apprendre, j'en ai rien à foutre, tu me déranges. Ça me dérange. Donc il peut traîner ça tout le temps jusqu'à un moment où il y a un déclic. Mais nous on a eu cette transmission-là sans qu'on nous le dise. Ça veut dire que même si qu'elle est loin de la religion, celui-là, de toute façon, il est dans le judaïsme toute sa vie, de son origine. Il n'y a pas moyen, il s'en sortira jamais. Et c'est particulier au peuple juif. C'est particulier.
Donc c'est ce qu'il dit. Ça veut dire qu'en vérité, chaque juif
a reçu.
Et
il a imprimé.
De façon innée, croyant.
Ah ouais, innée.
C'est comme ça.
Que tu crois, que t'es pas croyant ou pas.
Donc, puisque de façon innée, tu es déjà croyant. Donc la croyance que tu vas avoir, même si elle va être intellectuelle, même si elle va être de façon que je me convainc de quelque chose, c'est pas grave, parce que je ne fais qu'exprimer quelque chose que j'ai déjà au fond de moi. Donc c'est bon.
Et voilà, c'est tout.
D'accord.
Voilà.
On va avancer un peu plus.
Ou ceux qui expriment le contraire, ceux qui disent ah non je ne suis pas. Autrement dit, ils disent qu'ils sont, mais ils ne veulent pas être.
Bon, maintenant on va aller plus loin. On va reprendre le scénario. Donc, le scénario qu'on développe depuis deux semaines, d'accord? Un juif qui est là, qui se prépare à faire sa tefila. Voilà, Serge tombe à pic, d'accord? On en a parlé dernièrement. Donc, un juif, il est là, il se prépare à faire sa tefila. Et il se prépare, et il réfléchit, etc. Alors, il y a trois options possibles. Trois options. Vous me suivez? Première option, il réussit, il décolle. Bah, il a fait la préparation, talit, tefilin, réflexion. Son cœur est emballé. Bah lui, bon, bah au Hachem, il est tranquille. Lui, c'est affaire classée pour lui. Deuxième option, celle qu'on vient de développer. Son cœur ne s'est pas emballé, mais son esprit s'est emballé. C'est-à-dire que dans son esprit, ça l'a intéressé. Alors là, on l'a rassuré, on l'a dit, écoute, bon, ton cœur s'est pas encore emballé, mais c'est pas grave, ton esprit s'est emballé, c'est bien. Maintenant arrive le niveau 3. C'est le pire, celui-là. C'est quoi le niveau 3? Le gars, il s'est préparé, il a réfléchi, il a mis sa tête, il a essayé de penser comment il faut craindre Dieu, et comment Dieu est grand, et comment Dieu est important. Et il a pensé, c'est pas ce temps qu'il a laissé passer. Il a pensé pendant plusieurs minutes comment Dieu est grand, comment il faut penser à Dieu, et comment Dieu s'intéresse à moi. Concrètement, à la fin, koucha, il n'y a rien. Ni le cœur, ni l'esprit, même pas peur. Rien. J'ai pas peur.
On redouble.
Alors qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fasse? Alors là, je peux me dire, j'ai perdu mon temps. J'ai passé une demi-heure à essayer de penser à un concept.
C'est pas grave.
Et à la fin, je fais ma tefila. Non mais attendez, mais il s'est rien passé. C'est-à-dire, j'ai fait ma tefila, j'ai rien senti. Ni dans ma tête, ni dans mon cœur. Rien. Je suis passé comme ça. Rien. Alors là, il y a deux questions qui vont se poser. D'abord, deux questions qu'on va répondre tout de suite. Première question, c'est pourquoi ça n'a pas fonctionné? Alors que j'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai fait un debook. Ce qu'on m'a demandé, j'ai fait. Ça veut dire, on m'a dit, tu mets le talit, tu penses à ça, j'ai fait. Tu mets les tefilines, tu penses à ça, j'ai fait. On m'a dit, tu commences à te faire ta tefila, tu penses au fait que Dieu est grand, toi t'es petit, etc. Tout ce qu'on m'a dit, j'ai pensé. Ça n'a pas marché. Alors pourquoi ça n'a pas marché? Et surtout, si ça n'a pas marché, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que j'ai quelque chose à améliorer? Est-ce que ça veut dire que, je sais pas, quelque chose qui tombe par rond? Pourquoi ça n'a pas marché? Et comment je peux faire pour l'améliorer? C'est là que Mourazaké va répondre à ça aujourd'hui. Parce que ça, à mon avis, je pense que c'est quelque chose de très fréquent. Alors là, on pourrait parler des tefilas de Rosh Hashanah Kippour, mais en vérité, on peut parler des tefilas de tous les jours. Parce que voilà, un bon juif, il est là, il vient à la synagogue, il aurait pu rester chez lui à la maison dormir. Il est venu, il a fait un effort, il se casse la tête pour essayer pour penser à Dieu, etc. Concrètement, il fait toute une prière, il ferme son lit, il remet cette tefilin, il range cette tefilin, il dit « j'ai rien senti, j'ai rien, je suis passé à côté aujourd'hui, complètement ». Ça peut nous arriver, ça nous arrive, très fréquemment. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Allez-y.
Le troisième que tu dis.
Niveau 3.
Niveau 3, c'est plus important.
Ah ouais.
Pourquoi c'est plus important, je pense? C'est que, quand tu dis il n'y a rien, c'est que, quand il n'y a rien, c'est que tout est ouvert, tout est possible.
Oui, d'accord, mais bon. Le gars, il n'a rien senti.
Bah justement.
C'est-à-dire, Dieu, il n'a pas intéressé, quoi. C'est pas passé, c'est pas rentré.
C'est
fou.
Qu'il n'y a rien, je pense qu'il n'y a rien. C'est que là, c'est là que tout que. Comment il peut tout prendre, le gars.
Vous êtes commercial. Oui, vous êtes au marché, commercial. Attendez, je vais vous dire. Comment ça se passe? Lorsqu'il y a une personne qui vient, il passe devant votre stand. Vous avez une déballe.
Oui.
Bon.
Oui.
Vous essayez de lui vendre votre produit.
Oui.
D'accord? Oui. Maintenant, il y a trois options. Maintenant, le gars, il n'est pas intéressé par votre produit, il ne comptait pas l'acheter. Il était de passage. Mais vous l'avez arrêté. Oui. Parce qu'il y avait la queue devant, je ne sais pas ce qu'il y avait devant. Donc, ça ne profitait pas que monsieur Tatac. Bon, ok.
Oui.
Vous l'avez arrêté. Ok.
Oui.
Maintenant, trois options. Première option. Vous l'avez parlé, le bonhomme.
Oui.
Ah, ça l'a emballé. Tu sens, tu vois dans ses yeux que son cœur est parti. Ah, lui, celui-là, c'est bon.
C'est bon.
Tu peux lui vendre trois du même produit. C'est parti. T'en as un autre. Son cœur n'a pas été emballé. Mais sa tête, tu sens que ça l'intrigue. C'est pas mal. T'as un troisième, ça l'intéresse pas. Tu l'as pas parlé. Ça l'a pas intéressé.
Il est en danger.
Ah, il est en danger. Oui, mais
il est en danger de rien vouloir. Il est en danger. Pour moi, je dis,
mais le problème, c'est que c'est nous qui sommes en danger.
Quoi, hein? Très danger. Je dis, mais t'es en danger de rien vouloir. Donc, celui qui a tout, il est en danger de tout avoir, et l'autre qui a rien, il est en danger de tout manquer, de tout. Donc, des deux côtés, t'es cuit.
Donc, alors voilà. Maintenant, comment on fait? Si la déballe, c'est pas un vendeur du marché, mais là, s'il a déballe. Mais écoutez le problème. Comment on fait si la déballe, c'est pas un vendeur du marché, mais c'est la Torah qui vous l'a fait, c'est Dieu qui vous l'a fait, c'est un rabbin qui vous l'a fait.
Exactement.
D'accord? Et donc, normalement, voilà, on t'a fait une déballe, ça devrait marcher, non?
Exactement.
Et tu sens que ni ton cœur, ni ton esprit, personne n'a décollé.
Ouais, mais.
Alors pourquoi? Réponds à la demande Zaken. 235. En bas de la page. Veine, voici. Là. 235 en bas. Vous avez?
T'as avancé tout ça, déjà?
Oui, il a fait tout ça, oui.
Où c'est?
235.
Ah oui, oui.
Deux,
ah oui, j'ai sauté, d'accord. Non, d'accord. Non, vous avez raison. J'ai sauté à l'oral, d'accord. On va passer à la page. Oui, c'est bon. En haut de la page 234. Où j'étais? 233. Désolé. 233, c'était.
Des
Kabbalas au Iyamitid Bloshum Safek. Le fait qu'un juif y prend sur soi de servir à Kadosh Baruch Hu dans son cœur, même si dans son cœur il ne décolle pas, cette acceptation est véridique sans aucun doute. Sha'arei teva, ça j'explique à l'oral. Sha'arei teva nafshot kol Israël, car c'est la nature des âmes de tout le peuple juif. Chez lo limrod be melech, akadosh itbarer, de ne pas se révolter contre le roi, akadosh baruch hu, qui est le roi saint. Vare a Torah chez l'homme, do a mitzvah chez osé mechamat kabbalazo, ou mechamat a mishachadera chez mocho, ni krod be shemavada shlema. Ça je vous l'explique à l'oral. L'humour azakel te dit, sache que quand tu vas, on reprend l'option numéro 2. Quand tu vas être à une situation que tu vas craindre Akadosh Baruch Hu dans ta tête, et pas dans ton cœur, t'as pas la peur. Sache que le service de Dieu que tu fais est un service qui est parfait. Kechol avodatam eved la dono umalko, comme un serviteur qui fait ça pour son maître. Mashen ken im lomed umekayem amitzvah be'ahava levada kede le dov kabo alide torato umitzvotav einanikre b'sham vlat avet. Très important ce qu'il dit ici. Il dit, des fois tu vas voir un juif, il va dire, moi j'ai pas envie d'avoir peur de Dieu.
J'ai pas envie de...
D'avoir peur de Dieu.
Ah, peur de Dieu.
Moi je veux aimer Dieu.
Ah, bien.
Pas mal.
Ah,
il dit, moi je veux, pourquoi tu me parles de peur de Dieu? Pourquoi je dois avoir peur de Dieu? J'ai pas envie de parler de peur. Moi je veux que aimer Dieu. Ok? Alors, est-ce que on peut avoir un service de Dieu parfait?
Par amour.
Par amour. Ben non, c'est rien qui fera toutes les mitzvot. On ne parle pas d'une personne qui va faire de la vérote. Seulement, il dit, moi, tu n'as pas besoin de me convaincre par la crainte. Par l'amour. Dis-moi que Dieu, il est bien, que Dieu, il est grand, que je veux le faire kiffer. Je vais faire ce qu'il m'a demandé. Où est le problème? On est obligé d'avoir la crainte. Pourquoi il y a deux mitzvot? Pourquoi il y a une mitzvah qui s'appelle l'amour de Dieu et une mitzvah qui s'appelle la crainte de Dieu? Pourquoi c'est tellement important de faire appel à la crainte? Ça, c'est la question qu'on se pose maintenant. Ça veut dire qu'en vérité, avant de répondre à la question, qu'est-ce qui se passe si je décolle pas? Il faut d'abord se poser la question, pourquoi c'est tellement important d'arriver à la crainte? Est-ce que ça veut dire, je donne un exemple, on va prendre un juif. Il va être là, le juif, il a 80 ans. À 80 ans, il doit avoir peur de Dieu ou pas?
Bien sûr.
Normalement, quand tu as une relation avec quelqu'un, peut-être au début, tu vas commencer un peu avec la crainte, mais normalement, avec le temps, le but, c'est d'avoir l'amour, d'aimer la personne, tu fais par amour. Pourquoi, quand c'est avec Dieu, tout le temps, même le gars, il a 120 ans, il dit attention, il y a la crainte, il y a l'amour, il y a les deux. Pourquoi c'est tellement important d'avoir la crainte? Parce que réponse, oui, d'accord, mais quand même, ça répond pas à la question. Est-ce qu'on peut pas, ça veut dire, formuler différemment la question. Est-ce qu'on ne peut pas avoir un service de Dieu parfait sans la crainte? Est-ce que c'est possible?
On a la réponse ici.
Hein. Allez-y.
C'est samedi, on a étudié.
Mmh. Oui.
On mangeait, c'est pas un Dieu fort.
Non, j'ai compris, mais ça ne répond pas à la question.
Non, mais c'est-à-dire que si tu lui donnes, c'est ce qu'il te demande par rapport à une fila, c'est ça la base de tout. Le reste, c'est son fou.
Alors, vous savez quoi? Je veux votre fila. Ok, très bien.
Hier, on avait dit minra, arbitre, plutôt chahari, minra, et compris arbitre.
Très bien. Donc, mais votre fila, vous la faites par amour ou par crainte?
Déjà, je le fais parce qu'il a demandé.
Très bien.
Il n'a pas demandé
non, mais...
pour comment on l'a fait.
Non, mais je... Il a dit, le sentiment que vous avez dans votre cœur à ce moment-là, ou dans votre tête, c'est un sentiment d'amour ou de crainte?
Alors, si tu as besoin de lui vraiment en plus, là, tu rajoutes avec de l'amour et de l'empressement pour dire voilà, j'ai un truc urgent de demander en plus.
Donc, il n'y a pas de crainte.
Donc, c'est là, c'est...
Donc, il n'y a pas de crainte.
Non, mais là, c'est pire.
Où est la crainte?
C'est l'intérêt.
Ah oui?
Pourquoi pas? Parce que non, au début, c'est lui qui est intéressé.
Pourquoi avoir la crainte?
Il a dit à Moshe, il a dit, mais qui s'occupera de moi? Alors, nous, on s'occupe de lui, c'est ce que tu as dit.
Oui, mais pourquoi parler de chaque fois de crainte de Dieu? Pourquoi parler de crainte de Dieu? Mais pourquoi tu me parles de crainte de Dieu? Je vous donne un exemple. On reprend l'exemple du Haïti. Il a bien aimé cet exemple, Joseph. D'accord? Regardez l'Haïti. Si je veux intéresser quelqu'un à prendre du Haïti, pourquoi tu veux que je l'intéresse par la crainte? Lui dire, si tu veux boire ce Haïti, tu vas mourir. C'est pas comme ça qu'on parle aux gens. Comment je l'intéresse? Je lui dis, tu vas voir, il y a une belle couleur, c'est bon. Quelle couleur c'est là ici? Elle est dite jaune. Voilà. Ben oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va t'intéresser, on va essayer d'appeler ton œil. Pourquoi quand on parle de Dieu, quand on parle des mitzvot, on te dit, oui, il y a l'amour, mais il faut la crainte. Et c'est très important la crainte. Ça veut dire que même un rabbi, quelqu'un qui, c'est sûr qu'il fait les mitzvot, on dit non. Ça veut dire qu'il se remet en question, il se dit, mais Dieu je l'aime, mais est-ce que je le crains aussi, tu vois? Parce qu'il faut la crainte. Pourquoi il faut la crainte de Dieu? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Ça veut dire que, avant de répondre à la question, qu'est-ce qui se passe un juif qui n'a pas de crainte de Dieu? Qui, avec tout ce qu'il a préparé, il sent pas qu'il a la crainte de Dieu. Il faut d'abord se poser une question fondamentale, qui est pourquoi on doit avoir la crainte de Dieu? Après, on va comprendre qu'est-ce qui se passe si je ne l'ai pas. Oui, pourquoi?
Sans pas de la crainte, on peut pas y avoir de...
Et est-ce que c'est pas possible d'être religieux sans avoir crainte de Dieu, sans avoir la crainte de Dieu? Est-ce que je peux être religieux qu'avec l'amour de Dieu?
Oui, a priori, l'amour et la crainte, c'est deux sentiments différents. La crainte, ça veut dire que tu crains, c'est un effort de respect où tu as peur de si tu as la conscience.
Et pourquoi je dois avoir peur de Dieu?
Parce qu'il y a des mitzvot
à faire. C'est lui qui décide de ne pas faire.
Bien sûr. Comme il y a des mitzvot à faire, il y a des mitzvot à ne pas faire. Donc tu as la crainte.
Regarde, ton fils, tu veux qu'il ait peur de toi ou qu'il t'aime? Quand ton fils il est petit, il a peur de toi. D'accord? Mais quand tu grandis, t'espères qu'il t'arrive à quoi? Quelle relation tu t'imagines quand ton fils il aura 30 ans?
Il rigole.
Non, mais je te pose la question.
Dans la crainte et dans le respect aussi.
Qu'est-ce que tu aimerais? Ça veut dire, de façon ultime, qu'est-ce que tu t'imagines?
Non, mais il n'y a plus de crainte, il y a le respect aussi.
Oui.
À 30 ans, il n'y a plus de crainte.
Puis tu dis, mais le but c'est quoi? C'est l'amour. On ne va pas être dans la crainte.
D'accord.
Alors, est-ce qu'on ne peut pas être religieux? Est-ce qu'on ne peut pas servir Dieu sans crainte?
Sans crainte. Par amour.
Pourquoi c'est tellement important la crainte? Là, Edmond Razaken va répondre à la question.
Tu peux craindre Dieu parce que tu peux penser, je vais t'apporter que tu n'aimes pas comme il voudrait être aimé, donc il y a une crainte qui se crée. Tu crains de pas.
Mais pourquoi développer un sentiment de crainte?
Pourquoi
la crainte?
De crainte, parce que d'un côté il y a une demande que. D'un côté, il y aura une demande inconsciente qu'il va falloir que tu soumettes. Et est-ce qu'elle va être bonne, ma réponse? Donc, déjà, tu crées une crainte. Là. Donc, il y a un doute. J'irais même au-delà, je créerais même du doute. C'est-à-dire que je préfère le mot crainte, moi je mettrais plutôt le doute.
Mais Dieu nous demande de le craindre. Ah oui, le doute, à la limite, ça me dérange pas. La notion de doute, non, ça me dérange pas le doute, c'est normal. Il faut tout le temps douter, il faut tout le temps se remettre en question. Ça me dérange pas. Mais là, c'est pas le mot qu'on a dit, on a dit le mot crainte. Alors on va développer.
Moshe, pareil, quand il allait voir Dieu, jamais il est tout seul. Il attendait qu'il l'appelle. Donc il avait déjà le respect, la crainte.
Ah, attention, vous avez dit un autre mot là. C'est ce que M. Yazdé a dit tout à l'heure. Vous avez parlé de respect.
Il attendait l'invitation.
Oui, mais le respect, c'est pas suffisant.
Il n'est pas en basket.
Comment on dit en hébreu le respect? Comment donner le respect?
Kavod.
C'est pas le même mot que ira. Maintenant, il y a une crainte révérencière, respectueuse, mais c'est pas la même chose.
C'est pareil quand tu
t'as prié. Non. Le respect, vous avez une personne que je le respecte, moi je le respecte, mais je suis à un certain point. J'ai pas peur de lui.
Alors la crainte, ça veut dire quoi? Dans quel sens?
Ah, la crainte, c'est la crainte. C'est la crainte.
Parce qu'on est des êtres.
La crainte.
On est fait de chair et de sang. Et
tu sais, je vais te raconter une histoire. Une fois, hein, c'était le mois de Elul. Et le rabbi, il a dû aller chez le dentiste. Il avait très mal aux dents. Il avait très mal aux dents. Et il y avait une opération à faire, je sais pas quoi. Bon, il avait une opération à faire. Et à un moment, le dentiste, il a dit à l'épouse du rabbi, il a dit, je sais pas quand c'était, quand le rabbi, je crois qu'il est parti aux toilettes, je crois qu'il est parti, en tout cas, au moment où le rabbi n'était pas là, mais sa femme était là, il lui a dit, est-ce que votre mari, il a peur de l'opération? C'est ce qu'il a répondu? On était à quelques jours de Rosh Hashanah. Il a dit, mon mari, il tremble de Rosh Hashanah. Et ça, je vous promets qu'on le voyait, ça. Même en tant qu'enfant, ça m'a marqué. Tu voyais sur le visage du rabbi, décorant dans Rosh Hashanah, tu sentais qu'il y a... Et même, c'est-à-dire même dans les vidéos, on le retrouve, pas de Rosh Hashanah, des jours avant, des jours après. Tu sens qu'il y a une crainte, dans la simcha, hein, mais une crainte. Tu sens, et d'ailleurs, tu sens le visage, tout après Kippour, tu vois comment les traits du visage changent. Ça, c'est une crainte. Alors, moi, je pose une question. Je dis, mais pourquoi un tzadik, il a besoin d'avoir peur? Pourquoi il ne peut pas communiquer avec l'amour? Pourquoi c'est tellement important d'avoir et l'amour et la crainte? Alors, Admor Hazaken va répondre à la question. On va lire dans les mots. Il dit, en fait, c'est très simple. C'est Dieu qui a demandé. Et qu'est-ce que Dieu a demandé? Dieu, il a demandé qu'on le serve comme un esclave. Comme un esclave sert son maître. Attendez, il faut qu'on développe. Donc, il faut qu'on développe. Qu'est-ce qu'un esclave?
Serviteur.
Bah,
annulation.
Non.
Annulation.
Ah, attends. J'ai dit esclave, j'ai pas dit serviteur.
C'est fort.
Ouais, bon, serviteur, c'est quand on veut mettre un joli mot, mais on va, disons les mots clairement.
Oui, il y a la soumission. Ah.
Alors, on y va.
La soumission.
Alors, on va prendre l'étude du 14 Nissan, page 234. Ma chienne Ken. Néanmoins. Non, mais il faut pas avoir peur des mots. Faut dire les mots clairement.
Soumission, c'est bien.
Bon. Dites les mots que vous voulez, mais la Torah a dit les mots qu'elle voulait. On va voir ce que la Torah dit. C'est le mot esclave, c'est un mot qui nous dérange,
oui,
peut-être. Parce que on sait que l'esclavage était aboli, etc. Mais bon, c'est le mot que la Torah dit. Et la Torah est éternelle.
Mais est-ce qu'elle parle d'esclavage dans le sens...
Ah bah, attends, après... Moi, ils disent, il faut appeler un chien...
Un chat.
On y va. Alors, Machenken. Machenken imlomet. Si il étudie la Torah, ou mekayem ma mitzvah, et qu'il accomplit la mitzvah, be'ahava levada. Avec un seul amour pour Dieu. Donc c'est exactement le prototype que je viens de vous citer. Ça veut dire le juif religieux, mais il est religieux que par amour de Dieu. Il dit, moi je l'aime dans mon cœur. Moi je l'aime. J'ai pas de crainte. Qu'aider les dof kabo à l'aider torato mitzvotav. Et que toutes les mitzvot qu'il va faire, c'est pour s'attacher avec Dieu. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu veux t'attacher avec lui. Eina nikret veshem avodat aved. Un service comme ça n'est pas appelé un service, donc le service de Dieu, d'accord, avodat aved, le service d'un esclave. Et alors là, il faut qu'on développe. Va Torah amra, or la Torah nous a dit, dans plusieurs endroits, dans le Chumash Shemot, dans le Chumash Dvarim, la Torah a dit, va avadtem et Hashem Elokechem. Dans le Chumash Shemot, il est écrit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. D'accord? Veoto ta'avodu. Et il est écrit aussi, et lui, vous servirez. Or, ici vous prenez la racine du mot ta'avodu, d'accord? Ou bien va avadtem. Ça nous donne quelle est la racine, monsieur Yazdi? Un Eved. C'est quoi Eved? C'est un esclave.
De tuer les serviteurs.
Alors attendez. Maintenant, le Zohar s'arrête sur la question. Il dit, mais ça veut dire quoi un esclave? Je ne suis pas l'esclave de Dieu, moi. Ça veut dire que je ne suis pas un esclave. Et regardez les mots du Zohar dans Parashat Behar. Comment chez Katouf Bezohar, comme il est écrit dans le Zohar, Parashat Behar, que Aï Torah, que un homme doit être comme un taureau, d'accord? Comme un bœuf, pardon, de Yahavin Ale Ol Bekadmita. Sur lequel on place un joug sur lui, à l'avant. Ok? Un joug. Vous prenez un bœuf. Tu prends, tu mets un joug. Comme ça. Bon. Et qu'est-ce qu'on fait? Begin, le afka, mine, tav, le alma. Afin d'en tirer du bien pour le monde. Achinami nous dit le Zohar de la même façon. Il s'arrête les varnaches. Un homme a besoin. Les kabbala, alle, ol, malchut, shamaim. D'accepter tout d'abord la souveraineté d'Hachem, bekad, mita. En premier lieu. Et si cette acceptation ne se trouve pas en lui, la Kdusha ne réside pas en lui. C'est très fort ce que dit le Zohar. Ça veut dire, le Zohar dit la chose, ça veut dire, regarde, tu as un bœuf, tu veux le faire travailler. Tu veux le faire travailler dans le champ. Quelle est la première chose que tu fais?
L'acceptation.
Tu lui mets d'abord un joug. Maintenant, est-ce qu'il est possible que le bœuf va réussir à travailler sans le joug? Peut-être, c'est possible.
Oui, peut-être.
C'est possible que de sa volonté, il va essayer de vouloir marcher dans une direction et qu'il va tirer une charrue et que peut-être...
C'est
tout est possible. Mais la base, la règle numéro un, quand tu prends ton bœuf, quand tu prends ton bœuf et que tu vas aller au boulot avec lui, tu vas aller dans le champ. Règle numéro un, d'abord tu mets le joug. Et après on discute.
C'est le premier commandement.
Ça veut dire que s'il n'a pas mis le joug, c'est raté. Ça n'a même pas commencé.
C'est le premier commandement.
Alors dis le Zohar. Le Zohar dit c'est la même chose. C'est des mots très forts, il faut qu'on développe ce que dit le Zohar. Parce que le Zohar le dit, mais il faut qu'on l'explique. Le Zohar dit c'est la même chose. Il dit la même façon que le bœuf. Tant qu'on n'a pas mis le joug sur lui, ça n'a pas commencé. C'est-à-dire, le service n'a pas commencé. Il a peut-être fait des bonnes choses. Il a peut-être marché dans une direction qui s'avérait être la direction dans laquelle il fallait faire un sillon. Mais le travail n'a pas commencé. À quel moment commence le travail? Dès qu'on a placé le joug sur lui et qu'il a accepté.
Alors,
ça veut dire qu'il y a une acceptation du bœuf. Tu lui mets un joug, voilà, il comprend que maintenant, c'est plus moi le patron. Et il accepte ça. Là, le travail commence. Dit le Zohar, de la même façon. Dit le Zohar, il dit, un homme, avant de commencer à servir Dieu, il doit d'abord accepter le joug. Ol malchut shamaim. Le joug, donc c'est le même terme qu'on emploie, le joug de la souveraineté d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'avant même de commencer à parler Dieu, Tfilin, Talit, Shabbat, etc., d'abord pose-toi la question, est-ce que tu as accepté le joug de la souveraineté d'Hachem? Ben, c'est une question, ça.
Est-ce que celui qui fait l'amour, il peut implicitement pas l'accepter?
Dit le Zohar, alors ça c'est une très bonne question, ouais. Le Zohar dit, il faut qu'on développe, mais le Zohar dit que celui qui n'a pas mis sur soi le joug de Dieu,
ouais.
Il n'y a pas de Kedusha en lui.
Et c'est lui qui
le joug de Dieu.
Bah parce que
il a raison, tu peux accepter le joug d'une personne par amour.
Ah non, parce que c'est quoi le joug?
Non.
Un joug c'est pas l'amour,
non,
c'est la crainte.
Non,
parce que tu comprends, si c'est par amour, tu vas convaincre le bœuf qu'il doit aller dans cette direction, tu vas le faire kiffer, tu vas mettre des carottes etc. pour qu'il avance. Bon, ça c'est par amour. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche avec le bœuf en tout cas. Alors est-ce que nous sommes des bœufs? Pourquoi tu compares un bœuf?
Peut-être.
Mais dans le premier.
Moi, parle-moi, je suis un homme, explique-moi. Quand tu parles comme un bœuf, tu dis pas qu'après on avance.
C'est le premier commandement, il faut accepter déjà Dieu. C'est pas ça, c'est pas cette notion-là ou c'est autre chose?
Ah oui, bon, le premier commandement, je suis l'éternel ton Dieu, d'accord?
Oui. Est-ce que c'est déjà, c'est pas fait de l'accepter? Combien même derrière, tu fais que par amour ton service?
Ben écoute, c'est compliqué.
Est-ce que déjà il y a l'acceptation? Sinon, ça voudrait dire que tu peux même.
Oui,
pas...
mais non, je veux bien l'acceptation. Bien sûr, l'acceptation. L'acceptation, oui. Mais pourquoi cette histoire d'accepter un joug? C'est un mot qui dérange, le joug. Ça veut dire c'est un poids qu'on met. C'est-à-dire que t'as pas le choix. Quand on met un joug sur un animal, pourquoi on met le joug? Vous savez à quoi ça sert le joug? Pourquoi on met le joug sur l'animal?
Hein?
Parce que quand on lui met le joug, on lui dit, écoute, dorénavant, c'est pas toi qui décides dans quelle direction tu vas.
Ça pose une question.
On te bloque.
Ça pose une question supplémentaire. Ça pose la question de savoir, est-ce que finalement un amour qui est sous le joug est plus important qu'un amour sans être sous le joug? Parce que finalement, c'est un amour d'un serviteur, c'est un amour qui est subi.
Ah, mais attends, mais qui a dit que, je vais retourner à la question.
Un amour d'un esclave.
Qui a dit qu'un esclave a de l'amour?
Ben justement, alors il y a tellement pas l'amour.
Alors justement, parce que le problème c'est que ça risque de se retourner contre nous. Parce que quand tu crées une relation avec Dieu qui est seulement une relation de crainte et de joug, ben dans ce cas-là, peut-être qu'il n'y a plus d'amour.
Voilà, c'est ça.
Donc on a perdu au change.
Voilà.
Alors comment on peut jongler les deux? Mais ça, je vais voir après. Ça, on va voir juste après ça. Oui. Comment faire pour marier les deux? Parce que t'as un problème là. Parce que tu dis non, Dieu c'est pas par amour. D'abord la crainte. Pac, le joug.
Peut-être qu'il n'y a plus d'amour après.
Et après.
Oui, après il ne peut y avoir d'amour.
Dans un des commandements,
est-ce qu'un esclave?
Alors oui, mais on parle de Dieu là, oui.
Est-ce qu'un esclave il aime son maître?
Tu prends comme
pas sûr.
Mais là, on arrive à la question qui est la très bonne question qu'il a posée. Est-ce qu'un esclave aime son maître?
Est-ce qu'un esclave aime son maître? C'est pas sûr. Il va être affranchi.
Est-ce qu'un esclave aime son maître?
Non, pas forcément.
Comment ils appellent ça la règle de? Comment s'appelle ça, hein?
Syndrome de
Stockholm. Vous connaissez le syndrome de Stockholm? Impressionnant, ce syndrome.
Il aime son
ravisseur. C'est impressionnant.
Il aime. Il épouse sa
couche. Non, il aime. On a des gens qui sont partis jusqu'à se marier.
T'as tellement peur, surtout, oui. T'as pas envie de mourir, ouais.
Non, mais on a ce problème-là dans les couples aussi. Il y a des hommes qui frappent leur femme et leur femme, elle comprend pas qu'il y a un problème. Elle aime. C'est le syndrome de Stockholm, ils appellent ça.
Ouais, c'est ça.
Bon, mais revenons à notre sujet. Là, Dieu, c'est pas Stockholm, là. Dieu, c'est... Alors, est-ce que... Donc, voilà, la vraie question qu'on a se poser, c'est pourquoi c'est tellement important de craindre Dieu? Alors, la réponse, pour l'instant, on n'en a pas. On a un début de réponse. Par rapport à la modestie. Bon, là, pour l'instant, la réponse qu'on a donnée, c'est que c'est Dieu qui l'a demandé. Oui, mais pourquoi tu me laisses pas si un juif vient te voir et dit, écoute, moi je veux servir Dieu par amour?
Généralement, quand on réfléchit trop,
Pourquoi ? Tu penses vraiment qu'on ne peut pas servir Dieu par amour ?
Trop d'amour, tu prends
le temps. Oh non, je ne suis pas d'accord avec ça.
Quand
tu en donnes trop, à un moment donné, on va. Je ne suis
pas d'accord avec ça. Non, non. Ça, tu peux dire à ta
femme. Non.
Ça, tu peux dire à ta femme.
Pas.
Ça,
pas,
ça,
pas, ça, pas, ça, pas.
On parle de tout, là. Tu donnes trop de travail à ton patron gentiment, des fois, t'es pas servi derrière, et ainsi de suite.
Pourquoi il faut la craindre ?
Il y a des gens qui se donnent à fond, et au retour, ils n'ont rien. On les prend pour des idiots.
Oui, ça s'adressait à des. Ça s'adressait à l'époque à des gens qui étaient incultes et qui étaient des bédouins, qui n'étaient même pas dans des groupes, qui n'étaient pas. Donc il leur fallait un.
Joseph, la Torah est éternelle.
La Torah, il fallait qu'il soit imprégné. Il doit être de Torah, et quand on a imprégné, c'est comme un jour.
Oui, mais la Torah. Non, mais d'accord, mais en 2017, comment ça fonctionne ? Comment je peux parler à un juif en 2017 et lui dire il faut mettre le joug de Dieu ? Pourquoi le joug ? Je suis pas un bœuf ?
Lui le voit sous une autre forme.
Mais excusez-moi.
Oui, mais c'est symbolique le joug du bœuf, là.
Non, c'est sérieux.
C'est pas vrai.
Oui, vous inquiétez pas, j'ai pas prévu des barres pour le mettre sur votre cou, mais.
Exactement, tu comprends.
C'est pire.
Il n'y a pas d'école
de voilà. Le joug, c'est valable pour un cheval ou un campeur. Je suis passionné d'animaux. Un cheval, un jeune cheval, un yearling ou un jeune poulain.
Pour l'éduquer, oui.
Pour l'éduquer, on va commencer à lui mettre la selle, ça s'appelle le débourrage.
C'est pas un joug, ça.
C'est pas un joug, mais c'est. Le même concept, c'est-à-dire qu'on va lui dire maintenant, à partir de maintenant, tu dois accepter ma.
Ça, c'est pas ça le joug. Chez un bœuf, c'est pas comme ça que ça fonctionne.
Alors, le joug, alors, revenons au bœuf.
Parce que le bœuf, vous savez que le bœuf n'a pas tout le temps le joug sur lui.
Mais le
cheval. On lui enlève. Non. Ça veut dire qu'on lui met le joug pour aller travailler. Parce que le joug, en général, est associé directement à la charrue. Donc ça veut dire que. Ça veut dire que le matin, tu vois, quand il se réveille le matin, il est bien, il est tranquille, il a mangé et tout. Hein, pac ! Là, il comprend que ça va commencer.
Alors, le joug, pour la petite histoire. Alors qu'au début, les hommes, ils ont mis le joug sur la tête du bœuf. Et ils se sont aperçus qu'il y avait une déperdition de force. Parce que toute la force du bœuf.
Ses épaules.
Mais en fait, quand on met un joug à un animal, c'est-à-dire qu'au début, il va combattre dans le pré, il va faire ce qu'il veut. Au bout d'un moment, on va lui dire attention, maintenant tu vas concentrer toute ton énergie et toute ta force au travail que je vais te demander. Donc, est-ce que quelque part, on ne peut pas transformer ça un peu à l'homme, un peu à l'existence de l'homme ou l'enfant, l'insouciance, l'adolescent, etc. Et au bout d'un moment,
Non, mais vous êtes d'accord que le joug qu'on met sur le bœuf.
Tu vas prendre tes responsabilités.
Oui.
Tu vas aller dans
Non, j'ai compris, mais concrètement, on lui impose un choix. Quand je mets un joug sur un bœuf, je lui impose un choix.
Il n'a plus le choix.
Donc apparemment, on te dit que pour avancer dans la Torah, un juif doit s'imposer le joug divin. Ça veut dire que la relation que j'ai avec Dieu va être aussi une relation d'amour, mais c'est d'abord et avant tout une relation de crainte. Pourquoi ?
Mais c'est, Mandy, dès le départ, on était dans la crainte. Parce qu'on nous a retourné la.
La raison.
Bien sûr.
Mais pourquoi c'est comme ça ?
Parce qu'il a retourné la. Vous acceptez ou boum ?
Non, mais vous êtes d'accord avec ça, vous ? Vous êtes d'accord avec ça ?
Bien sûr.
Mais pourquoi ça marche comme ça ? Ça, on fait avec quelqu'un qu'on n'arrive pas à convaincre. Pourquoi ? Est-ce que vous pensez vraiment que le projet de la Torah n'est pas assez convaincant, qu'on a besoin de nous forcer ?
C'était soit ça, soit détruire le monde.
T'es
devant le mur, en fait.
C'est plus loin que ça. Alors, j'entends ce que vous dites. Il y a même des méfarchés qui veulent répondre comme vous dites, comme plusieurs ont dit. Qui veut dire que pourquoi c'est un joug ? Parce qu'on considère que l'homme n'aurait peut-être pas accepté, donc il faut lui imposer. Je ne suis pas d'accord avec cette réponse. Vous allez voir, bien sûr, on n'est pas d'accord avec cette réponse. Parce que. D'abord, la Torah s'adresse à tout le monde, même à des tzadikim, que eux, ils n'ont pas besoin de ça pour accepter. Et en plus de ça, la Torah est un projet qu'on peut faire accepter par amour. Il n'y a pas besoin de la peur pour le faire accepter. Ça veut dire, c'est grave si on dit que la Torah est un projet qui est tellement irréel que la seule façon de le faire accepter, c'est avec le bâton. Non, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord que peut-être un juif quand un juif a 2-3 ans, je veux bien, mais quand il a 30 ans, 40 ans, quoi, tu penses vraiment que la seule façon de le convaincre la Torah est vraie, c'est avec le bâton ? Pourquoi tu range ton bâton ? Alors la réponse est ça. C'est quoi la réponse ? C'est qu'Akadosh Baruch Hu a décidé, c'est une décision de Dieu. Il veut qu'on le serve comme un esclave, mais il veut d'un côté qu'on le serve comme un esclave et d'un autre côté qu'on le serve comme un fils. Et là, on va développer avec le Zohar, ça vient du Zohar, c'est une autre partie du Zohar, la différence entre un esclave et un fils. Il y a plusieurs mamarim sur ça. On va développer, ne vous inquiétez, on va développer.
C'est
Donc déjà, le Zohar nous a dit la chose suivante. Premier élément nous dit le Zohar, il nous a parlé très clairement de service. Et c'est pas seulement service dans le langage joli français, servitude, etc. C'est beaucoup plus que servitude. C'est carrément esclave. Vous avez vu, le Zohar a été très clair, il a pas utilisé mille mots. Il nous a comparé au bœuf. Il a été de la même façon que le bœuf. On discute pas tant qu'il a pas le joug sur le cou. De la même façon, on peut pas discuter avec Dieu tant que t'as pas mis le joug, t'as pas accepté la souveraineté d'Hachem. Alors, maintenant on va continuer pour expliquer. Uberaya Memena, je suis en haut de la page 235. Uberaya Memena, Raya Memena, c'est une autre partie du Zohar. Uberaya Memena Shamda Kufidal Famudbet, Shekol Adam, Tsar, Echlidat Bishte Prenot Madregot. Maintenant, le Zohar explique que c'est vrai que Dieu nous a demandé de le servir comme un esclave, comme un bœuf, le joug. Mais d'un autre côté, chaque homme doit avoir deux niveaux en lui. Je dis bien deux niveaux. Deux aspects, deux degrés. Un niveau d'esclave et un niveau de fils. Quelle est la différence entre un esclave et un fils?
L'amour réciproque.
D'accord? On va prendre deux exemples. On va prendre deux exemples. Un premier exemple, c'est le Eved. L'esclave. Un esclave avec son maître. Quelle est la relation que va développer l'esclave avec son maître? Est-ce que l'esclave aime son maître?
Non.
Oui, c'est possible.
Il peut.
C'est expliqué. En Chassidut, c'est expliqué. C'est expliqué en Chassidut que c'est expliqué. Il y a la différence entre ce qu'on appelle Eved Ivri et Eved Kanani. Il y a l'esclave hébreu et l'esclave cananéen. C'est quoi la différence? Très simple. Spirituellement, la différence est très simple. L'esclave hébreu, c'est celui qui est esclave d'Hachem par amour. Ça veut dire qu'on peut être esclave de quelqu'un par amour. Ça veut dire la soumission par amour. D'accord? Ça, c'est possible. Mais concrètement, le sentiment, pourquoi j'appelle ça de la soumission? Parce que le sentiment principal, c'est un sentiment de soumission.
Ouais.
Après, on a la soumission sans amour. Comme dit la Gemara sur le Eved Kanaani, l'esclave cananéen, on dit que l'esclave, lui, ce qu'il veut, c'est la liberté. Ça veut dire que un esclave cananéen qui n'aime pas son maître, le jour où il a une possibilité de trouver un pistolet qui traîne et de tirer une balle sur son maître, il le fait. Il n'y a pas de question, il le fait. Ça veut dire que s'il a un plan, on lui dit voilà, tu tires une balle et tu te sauves par là, etc. Il pose pas de question, il le fait. Parce qu'il n'aime pas son maître. On est d'accord? Il n'aime pas son maître. Son maître, c'est son ravisseur. Son maître, c'est son geôlier. Son maître, c'est celui qui le met en prison. Mais t'as un esclave qui aime son maître. C'est-à-dire que même s'il a une possibilité, même s'il y a une possibilité de le tuer, il a une relation de confiance qui s'instaure avec son maître. On a beaucoup d'exemples dans la Gemara comme ça, d'exemples de serviteurs qui ont, des serviteurs qui étaient d'ailleurs, qui n'étaient pas des juifs, d'accord? Mais qui ont développé une relation de confiance avec leur maître. Au point qu'il y en a plusieurs, au point qu'il y en a même qui sont carrément convertis après. C'est-à-dire qu'il y a une relation de confiance. Ce qui est possible. Ce qui dit relation de confiance, ça veut dire qu'il y a une sorte d'amour. On est d'accord? Il y a une sorte d'amour. Ça veut dire que je suis ton esclave, je fais ce que tu me demandes, mais il y a un sentiment d'amour. Mais ça n'est toujours pas de l'amour, comme l'amour d'un fils. C'est quoi l'amour d'un fils? Là, c'est beaucoup plus fort. Si je pose la question à un fils, je lui dis, pourquoi tu fais la volonté de ton père? Parce que je l'aime, c'est mon père. Ah, justement,
c'est après, ça.
Il y a deux aspects. Il y a un aspect de crainte et il y a un aspect d'amour. Le fils, il le fait par amour.
Oui.
Seulement, quelle est la différence? Chacun a sa qualité, chacun a son défaut. La qualité du fils, c'est qu'il fait par amour. Et quand on fait par amour, on s'implique grave. Quand tu fais quelque chose par amour, tu es à fond dedans, tu es attentif aux détails, etc. Mais d'un autre côté, le problème, c'est que quand tu fais quelque chose par amour, dès que tu aimes plus, tu t'arrêtes. C'est comme ça.
Moteur.
Ah ouais. Ah, c'est-à-dire, quand tu aimes, tu es à fond dedans, tu t'impliques dans les détails, mais quand tu n'aimes pas, tu t'arrêtes. Alors que d'un autre côté, tu as l'esclave. L'esclave, il pédale tout le temps, il s'arrête pas. Mais, même quand il aime pas. D'accord? Donc ça, c'est l'avantage qu'il y a dans l'esclave, c'est que l'esclave, il travaille tout le temps, il s'arrête pas. Mais évidemment, l'inconvénient, c'est quoi? C'est qu'il n'aura jamais le même amour que le fils. Alors attends, justement. Maintenant, regardez. Quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, regardez juste Avinu Malkinu. Voilà, semaine dernière, on a chanté Avinu Malkinu. Ah, on l'a répété 25 fois. D'accord? Avinu Malkinu. Ça veut dire quoi, Avinu Malkinu? Notre père, notre roi. Notre père, notre roi.
On l'aime, on le craint.
C'est pas la même chose. T'as pas la même relation avec ton père et avec ton roi. D'accord? Ou bien une autre phrase qui revient très souvent dans les tefillot de Rosh Hashanah Kippour. Im kebanim, im kavadim. Prends-nous soit comme des enfants, soit comme des serviteurs. Et on s'adresse à Dieu. On utilise constamment les deux pistes. Pourquoi ces deux pistes? C'est deux pistes complètement différentes. Tu peux pas t'adresser à Dieu comme un fils et comme un esclave. Réponse du Tania et du Zohar, qui vient du Zohar, et tu dis oui. C'est à Kadosh Baruch Hu qui l'a demandé, et on va expliquer pourquoi. simple. On va expliquer. C'est pas si simple du tout. C'est,
hein. Quand on arrive à servir par amour, on utilisera la soumission. Quand on arrive à faire la soumission.
Ah non, le problème. Maintenant, justement, c'est ce que je veux te reprendre, c'est faux. Parce que le problème, c'est que constamment, c'est le plus dur. C'est que constamment, un juif doit avoir en même temps l'amour, en même temps la crainte. C'est très difficile, ça. Comment tu peux en même temps aimer quelqu'un très fort et en même temps le craindre très fort?
Il dit vraiment, j'ai pas envie, mais je fais pas parce que j'ai craint.
Alors, ce que tu dis, c'est par moment. C'est-à-dire, tu dis, il y a des moments, c'est l'amour, et des moments, c'est la crainte. Mais c'est pas ce que la Torah nous demande. Parce qu'à chaque seconde de notre existence, nous avons deux mitzvot. En simultané. La mitzvah d'aimer Dieu, la mitzvah de craindre Dieu. Et c'est très dur. Comment tu veux aimer et craindre une personne très fort en même temps?
Quand je fais une bracha, en même temps que je fais la bracha, les deux sentiments que je dois avoir,
c'est extrêmement difficile.
Au moment de faire la bracha.
Regardez, prenez un exemple par rapport à votre femme. Quel sentiment vous avez par rapport à votre femme? L'amour ou de la crainte? On va demander à Jackie, un vétéran, Baruch Hashem, plus de...
Non, c'est la crainte. Hein. C'est sûr, c'est la crainte.
C'est
sûr, c'est la crainte.
Quel sentiment?
Ça commence à être la crainte.
J'ai dit, quel sentiment il a envers sa femme? L'amour ou la crainte?
Au début, c'est l'amour, après c'est la crainte.
Est-ce que tu peux aimer quelqu'un et le craindre très fort en même temps?
Oui.
L'aimer très fort, le craindre très fort en même temps. C'est très compliqué à marier ces deux sentiments. Parce que, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, normalement, quand tu aimes quelqu'un, t'as envie de t'approcher de lui. Quand tu crains une personne, ça te pousse à t'éloigner de lui. Je crains. T'approches, tu crains. Et quand tu aimes et tu crains en même temps, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu restes au point mort.
T'es statique.
T'es là, il pousse devant, le petit pousse derrière. Pac, on reste là.
L'amour inspire la crainte. Si vous n'aimez pas...
Il y aura l'amour et la crainte alors.
Si j'aime pas une femme, je la crains pas. Si je l'aime par amour, je la crains aussi. La crainte de la perdre, la crainte de discuter avec elle, la crainte de beaucoup de choses. L'amour entraîne...
Alors attention, vous avez touché une piste intéressante, très intéressante, que j'ai pas encore touché, ça me s'en verra dans... Bah, on verra en vérité à la rente. Je pense pas qu'on arrivera à ça avant les vacances. Mais un point très important que vous avez dit la crainte, ça peut être la crainte de la perdre. Intéressant ça. C'est-à-dire, c'est pas forcément j'ai peur de me frapper.
Non.
C'est la crainte de la perdre, la crainte de l'éloignement, la crainte de décevoir.
Ou la crainte de plus être aimé.
Ou la crainte de plus être aimé, très bien, j'y arrive. Mais a priori, c'est plus que ça que tu nous demandes. Parce que le Zohar a parlé d'un joug. Vous comprenez, le joug, c'est pas c'est pas je t'aime, juste une petite peur, j'ai peur de te rater. Non, c'est un joug pack. C'est fort ça, c'est très fort. Et on parle d'un esclave. Je pense pas qu'il y ait des gens ici qui se sentent esclaves de leur femme. Ni fils d'ailleurs, mais bon. Non, mais c'est très fort comme notion. Hein? Hélas.
Hélas, tu en as.
Im kebanim, im kavadim. Alors, dit le Zohar, que Kadosh Baruch Hu nous demande que chez chacun de nous, il y ait ces deux niveaux. Le niveau de Reved, le niveau d'esclave et le niveau du fils. Maintenant, il avance un petit peu, il ouvre une petite parenthèse. Ve'af de yesh ben sheu gamken eved. Bien qu'il existe le niveau d'un fils, qui est en même temps serviteur, c'est-à-dire ce qu'on appelle un fils serviteur. Dit le Morazaken, Are Iefchar Lavo le Madrigazo, on ne peut arriver à ce niveau-là, Blik Dimata Iraïla, Kayodwa le Yodim, sans avoir la crainte suprême d'Akadosh Baruch Hu. Ça, je rentre pas dedans parce qu'il dit clairement que c'est quelque chose qui est très compliqué, qui est connu pour les connaisseurs. La conclusion à laquelle je vais arriver maintenant, conclusion très simple, qui est que le Morazaken te dit que Akadosh Baruch Hu te dit dans la relation que tu as envers moi, tu dois avoir les deux. Tu dois avoir l'amour et tu dois avoir la crainte. Et en vérité, on a un élément de réponse. C'est que quand on fait qu'aimer quelqu'un, on a pris l'exemple, c'est un exemple qui ramène souvent en chassidout. Quelqu'un qui va dire, par exemple, qu'il aime sa femme. Ok? Si tu as que l'amour et tu n'as pas de crainte, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, c'est quoi le problème de l'amour? Le problème de l'amour, c'est que tu t'approches tellement de quelqu'un qu'il n'y a plus de limite. Et quand il n'y a plus de limite, automatiquement, tu te permets des choses que tu ne te serais jamais permis à quelqu'un d'autre. Alors au début, c'est mignon parce que bon, il se permet, d'accord? Il aime. Mais quand il n'y a pas la crainte, quand il n'y a pas de distance, automatiquement, Chasvei Shalom, on arrive à se permettre des choses qu'on ne serait pas permis, et c'est ça ce qui crée le vrai éloignement. C'est pour ça que quand tu dis la chassidoute, dans toute relation humaine, mais encore plus avec Hachem qu'on va l'expliquer, il faut toujours une relation d'un côté d'amour, mais d'un autre côté de crainte, les deux en même temps. Mais avec Hachem, c'est beaucoup plus extrême. C'est pas seulement stam, amour et crainte en même temps. C'est l'extrême de l'amour et l'extrême de la crainte. C'est les deux en même temps. L'extrême de l'amour, c'est le fils. Est-ce qu'il y a un amour plus fort que l'amour d'un fils? On va essayer de s'arrêter dessus. Quelle est la différence entre l'amour qu'il y a entre vous et votre fils et vous et votre femme? Pourquoi on parle du fils ici?
C'est un amour inconditionnel.
Exactement. Parce qu'une femme, même si tu l'aimes,
c'est ta femme.
Mais tu peux arrêter de l'aimer. Tu peux arrêter de l'aimer. Tu peux divorcer. On peut divorcer d'une femme. Est-ce qu'on peut divorcer d'un fils? Tu peux pas. C'est-à-dire que même si tu te convaincs que tu l'aimes pas, que tout ce que tu veux, mais de ta nature, tu es obligé d'être attaché à lui. Tu peux pas te détacher de lui. Ça, c'est un amour extraordinaire, inconditionnel. Ça veut dire que, par exemple, une femme, t'es marié avec elle, d'accord? Mais si elle te ramène des mauvaises notes, bah à la fin, c'est un exemple, évidemment, d'accord? À la fin, quand elle arrête pas de te décevoir, bah, à un moment, t'es déçu, à un moment, tu peux divorcer. Mais un enfant, il va te décevoir sur déception. Est-ce que tu peux divorcer d'un enfant? Tu peux pas. Donc, c'est pour ça que dans la chassidoute, on explique que l'enfant, c'est le symbole d'un amour inconditionnel. D'un autre côté, le Eved, le serviteur, c'est quoi? C'est le sentiment d'un esclavage aussi inconditionnel. Parce que l'esclave, c'est pas s'il se lève, il est bien luné, il va travailler. S'il se lève, il est mal luné, il va pas travailler. Il n'y a pas, tu travailles, c'est tout, tu bosses. Et c'est pas, ouais, je suis fatigué, je vais aller dormir. Il n'y a pas, tu vas dormir. On t'a dit 9 heures par jour, 10 heures par jour, 10 heures par jour. Fatigué, pas fatigué, peu importe, tu travailles. Ça veut dire que l'esclave, ça représente la crainte inconditionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi on insiste sur ces deux notions de fils et d'esclave? Parce que dans ces deux notions, il y a un caractère inconditionnel. Un caractère que ça dépend de rien du tout. Ça doit toujours être là. Un amour inconditionnel, une crainte inconditionnelle. Il nous dit le Zohar, chaque juif, il doit avoir un peu ces deux niveaux. Un peu d'amour, un peu de crainte, un peu de réved, un peu de ben. Ok. Oui. Ah, c'est extrêmement difficile. C'est très très difficile. Je vais illustrer ça avec une histoire. On va terminer avec ça pour aujourd'hui. Comment c'est possible d'avoir la crainte et l'amour en même temps? Comment c'est possible? Une fois, le Baal Shem Tov, il était en déplacement. Et vous savez, il y a des histoires extraordinaires sur les déplacements du Baal Shem Tov. Ils sont arrivés dans une ville et le Baal Shem Tov, il a compris que c'était quelques jours avant Rosh Hashanah. Et le Baal Shem Tov, il a compris qu'il ne pourrait pas être à Rosh Hashanah à la maison. Il ne pourrait pas rentrer à Mezibosh pour Rosh Hashanah. Donc il a compris. Des fois, il avait des miracles. Hein, en une heure, il faisait un parcours de plusieurs jours. Mais là, il a compris que Dieu voulait qu'il soit là. Donc, il s'est installé avec ses élèves dans ce village pour Rosh Hashanah. Et donc, tout le monde, bien sûr, était impatient. Tout le monde a rencontré Baal Shem Tov. Et surtout, quand il a annoncé l'information qu'il allait être là pour Rosh Hashanah, toutes les synagogues se battaient pour avoir le mérite d'avoir le Baal Shem Tov. Vous imaginez avoir le mérite d'avoir le Baal Shem Tov qui prie dans les synagogues. Non. Alors, lorsque le Baal Shem Tov a vu qu'il y avait une sorte de dispute, entre guillemets, mais c'est une bonne guerre, entre les synagogues, Baal Shem Tov, il a dit, je vais demander à tous les chazalim de toutes les synagogues de venir me faire un extrait de leur prière. Et je vais les écouter, et je vais les choisir. Bon, évidemment, ce qui intéresse le Baal Shem Tov, c'est pas la belle voix, c'est la kavana de la personne. Très bien. Alors, Baal Shem Tov, il écoute un premier, un deuxième, et chacun dit, bon, on vous rappellera. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire, d'accord? Et à un moment, parmi les derniers chazanim qui arrivent, je crois même dans l'histoire, c'est même le dernier chazan qui arrive, c'est un chazan d'une petite synagogue, comme ça. Vraiment une petite synagogue. C'est-à-dire, ils sont tous passés, la grande synagogue. À la fin, il restait un chazan d'une petite synagogue, vraiment perdu. Et là, je lui dis, bon, fais-moi ton morceau. Et là, le chazan, il commence à lui jouer Hachamnou. Hachamnou Baganou, vous savez, Hachamnou, nous avons fauté, etc. Nous avons fauté. Bon. Et le chazan, il commence à chanter ça avec un air joyeux. Alors, Baal Shem Tov, il est intrigué, il a jamais entendu ça. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites? C'est quoi ça? Nous avons fauté, etc. Imaginez, il chante, tu vois, et nous avons fauté.
Il rappe.
Alors, Baal Shem Tov, il laisse terminer. Après, il dit, bon, d'accord. Et juste, expliquez-moi qu'est-ce qui vient de se passer. Ça se chante pas, ça. On fauté, on se baisse, on pleure. Alors, ce Hassan, il dit, je vais vous expliquer pourquoi je fais comme ça. Il dit, je vais vous raconter une histoire. L'histoire dans l'histoire, une parabole. Il dit, une fois, il y avait un roi qui avait un très grand domaine. Et ce roi, il avait un serviteur qu'il aimait beaucoup. Il y avait une relation entre le roi et le serviteur extraordinaire. Et le serviteur était tellement attaché à son maître que chaque fois qu'il sortait, qu'il se baladait dans le domaine du roi, le grand domaine, dès qu'il voyait même une petite saleté, tout de suite il ramassait, il rangeait, etc. Il ne pouvait pas supporter qu'il y ait même une saleté dans le domaine du roi, le palais du roi. Et c'est passé comme ça pendant des années. Et une fois, le serviteur, il marche dans le domaine du roi qui est énorme. C'est-à-dire, c'est énorme, c'est plusieurs kilomètres. Et il marche, il se laisse aller à ses pensées. Et il arrive au bout du domaine. Et quand il arrive au bout du domaine, qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'il y a une muraille. C'est la muraille du domaine. Et il voit que, devant la muraille, il y a plein de poubelles. C'est devenu une décharge de poubelles. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? c'est que de l'autre côté, il y a plein de gens qui habitent, et comme ils ont vu qu'il n'y a personne qui était de l'autre côté de la muraille, donc du coup, ils ont envoyé leur poubelle là-bas. Ils ont envoyé leur poubelle comme ça, et du coup, c'est devenu une décharge de poubelle. Et lui, il voit ça, le serviteur, il se dit, mais attends, moi, je suis en train de ramasser des petites poussières et des petits trucs, et je fais un plat, mais là, c'est une décharge de poubelle. Tu t'imagines, dans le domaine du roi, il y a une décharge de poubelle. Ça l'a rendu fou. Alors, il a dit, tout de suite, je nettoie. Et donc, tout de suite, il a commencé à nettoyer. Et là, il dit, le Chazan Baal Shem Tov, il dit, vous savez ce qui s'est passé à ce moment-là? Ce monsieur, ce serviteur, comme il aimait son maître, mais il avait beaucoup de peine de ce qui s'est passé, eh ben, il se mettait à ramasser les poubelles, en chantant et en pleurant en même temps. Pourquoi il chantait? Pourquoi il pleurait? Ben, d'abord, il pleurait parce que ça lui faisait de la peine, que le domaine du roi est tellement sale. Mais pourquoi il chantait? Il chantait parce qu'il était content d'avoir trouvé cette poubelle. Il dit, mais tu t'imagines, ça fait des années que je ne savais pas, je suis content d'avoir trouvé cette décharge de poubelle pour enlever du domaine du roi cette poubelle. Donc je chante et je pleure en même temps. Je pleure parce que ça me fait de la peine de voir ce que je vois, mais je chante parce que je suis content que j'enlève ce problème. Alors il a dit, le Chazan Baal Shem Tov, il a dit, c'est la même chose. Il a dit, nous aussi, avec Akadosh Baruch Hu. Il a dit, voilà, on est là. Bon. Bah ouais, schizophrène, bipolaire même. Alors il a dit comme ça. Il a dit, regardez, il a dit, voilà, nous on est là. Toute l'année, on a fait ce qu'on a fait, etc. Maintenant, on arrive le mois d'Eloul. Hein, on cherche les fautes, etc. Et on va jusqu'au bout du domaine, et on se rend compte qu'il y a des décharges de poubelles. Maintenant, on est très embêtés. Qu'est-ce qu'on fait avec cette décharge? Une décharge d'Averod qu'on a, là, qui traîne. D'accord? Avec toutes celles du mois d'août qui vont arriver. Alors, et donc, il est là, il a une décharge. Il dit, qu'est-ce que je vais faire? Et là, c'est intéressant parce que la Neshama, elle est tiraillée. D'un côté, la Neshama, elle pleure. Parce qu'elle dit, mais attends, mais je vais faire quoi avec toute cette poubelle pour Rosh Hashanah? Je fais quoi avec cette poubelle? Mais d'un autre côté, la Neshama, elle chante. Parce qu'elle dit, mais attends, je suis content que Hachem lui donne la possibilité de réparer. Parce que tu t'imagines, si ça restait une décharge du Tam Eternam, je suis content qu'Hachem me laisse réparer. Alors, dès que le Baal Shem Tov l'entendait ça, il a dit, bon, évidemment, c'est vous qui serez mon Razan, c'est son Razan. Et c'est depuis ce moment-là que le Baal Shem Tov, il a instauré que dans les Tfilot, des Yamim Nouraï, donc des jours qu'on appelle les jours redoutables, qui sont effectivement redoutables, que même dans les parties où on parle de choses qui sont des choses redoutables, qu'on instaure la joie et qu'on instaure même un air joyeux. Et c'est pour ça que
On vous entend.
Ah oui, vous entendez.
C'est pour ça qu'on vous entend.
Ah mais c'est un peu choquant. Tu vois, les gars, ils sont à Kippour, ils chantent comme si que. Non, mais la vérité, même dans le Sfarad, attendez. Vous connaissez le Khatanul Fanera? Attends, je vais vous traduire celui-là. Oui. Nous avons fauté devant toi, et pitié de nous. Allez, on va aller où? C'est que ma boule, quoi.
Il
t'a vu, là. Super, là. J'ai traduit, hein, c'est tout, hein. Khatanul Fanera, ramenez-nous. C'est ça la traduction. Regardez, c'est ça la traduction. Parce que c'est ça en vérité. Ça, c'est pour moi, c'est exactement ce qu'a dit le Baal Shem Tov. Ça veut dire d'un côté, je le fais avec beaucoup de soumission. Beaucoup de soumission parce que je comprends qu'il y a un problème, qu'il y a une décharge, qu'il faut nettoyer la décharge. D'accord? Mais d'un autre côté, je suis Bessimra parce que je dis, attends, la décharge, elle aurait pu rester comme ça. Et je suis content que Dieu me donne les outils pour nettoyer cette décharge. Donc il est en même temps. Et là, c'est un peu la même chose. Mais on s'arrête là pour aujourd'hui. Par rapport au Eved et par rapport au Ben. C'est-à-dire, voilà, un juif, la relation qu'il a avec Hachem, d'un côté, il y a une notion de Eved, d'esclave, c'est-à-dire qu'il est là, il fait ce qu'on faut faire, on ne pose pas de questions. Mais il y a cette notion d'amour très très puissant, un amour très très puissant. Et les deux en même temps, c'est pas si simple. Mais on va développer, parce que Hachem, dans les chapitres suivants, comment marier ces deux sentiments, et surtout comment réussir à générer ces deux sentiments. Voilà. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà. Oui, je ne sais pas si on est...